Dialogue entre Congolais présenté par Alain Lirong.
Bonsoir, le gouvernement congolais vient de lever la mesure suspendant l'exploitation minière dans les provinces du Maniema du Nord et Sud Kivu. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? Comment organiser le secteur minier à travers le pays pour que la population puisse en bénéficier? Nos invités dans cette émission sont Lens Kamoigna, coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur des mines, promis. Monsieur Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Gustave Omba, député national élu de Pugna au Maniema, il est consultant dans le secteur minier. Honorable Omba, bonsoir.
Bonsoir.
Willy Kalinga, analyste et directeur général de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans les ressources naturelles. Monsieur Kalinga, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions nous sont déjà parvenues. Venant à Bello de Matadi au Bas-Congo, je suis étonné d'apprendre la levée de cette mesure qui a plusieurs fois été transgressée par ceux-là même qui devaient la faire respecter. Irène de Simon-Pierre de Bukavu, Sud Kivu, le danger évoqué par le président de la République lors de la suspension de l'exploitation minière à l'Est est-il écarté aujourd'hui? Les groupes armés qui exploitent d'une manière illicite les minerais sont toujours présents dans ces provinces et tous les efforts pour les bouter dehors ont échoué. Quelles dispositions le gouvernement a-t-il prises pour les empêcher d'exploiter les minerais au détriment des populations congolaises? Vous êtes des millions à nous suivre à travers le monde sur RadioCafé.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081-051-66-78 ou contactez-nous par SMS 081-051-57-78 ou par mail dec@radiocafé.net.
Bonne nouvelle pour les exploitants miniers de l'ex-Kivu. L'arrêté du ministre des Mines portant levée de la suspension de l'exploitation minière artisanale dans le Maniema, le Nord et le Sud Kivu est tombé hier soir, mais il ne prendra effet qu'au 10 mars prochain. La nouvelle a été annoncée hier au terme de 4 jours d'intenses discussions d'harmonisation entre le ministère des Mines et les intervenants dans ce secteur. Monsieur le ministre Martin Kabouiloulou, quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision?
Nous avons décidé ainsi parce que nous avons vu que sur le terrain, les préalables que nous avons mis sur place étaient déjà accomplis, notamment le déploiement des agents pour faire la traçabilité, également l'étiquetage des colis, la certification des colis était déjà sur place. Et aujourd'hui, nous pensons que ces mesures qui ont été prises vont être bénéfiques lorsque nous ouvrons et que nous serons en mesure de faire une traçabilité efficiente depuis l'extraction du minerai jusqu'à l'exportation.
Les propos du ministre des Mines, Martin Kabouiloulou, ont été recueillis par Daniel Tambizoni. Lens Kamoigna, pouvez-vous expliciter les raisons avancées par le ministre pour lever cette mesure?
Oui, je crois que si nous avons bien suivi le ministre des Mines, il a parlé de la traçabilité qui n'existait pas avant la levée de cette mesure. Quand on dit traçabilité, c'est-à-dire à ce jour, il existe tout un manuel qui décrit les différentes étapes par lesquelles doivent passer les produits miniers depuis le puits d'extraction jusqu'au point d'exportation. Les services publics au niveau du ministère des Mines comme d'autres régies financières sont également mis en place. À ce moment-là, il est possible d'identifier l'origine du minerai, les transporteurs, les négociants qui l'a acheté, les comptoirs qui viennent là où le négociant va le vendre, et même au niveau du point de sortie avec l'intervention du CSE. Ça va permettre quand même de savoir contrôler tout ce qui est produit et tout ce qui est exporté. Donc ça, c'est quand même un élément assez important en termes de traçabilité, parce qu'il n'y aura plus de procédure que non, c'est des minerais, ce sont des minerais du sang, parce qu'exploités par des personnes qui ne sont pas identifiées ou des groupes armés, comme on les disait, parce que ces gens ne peuvent pas opérer en respectant toute la procédure de traçabilité, et ça va permettre à l'État congolais de percevoir les droits et d'autres redevances sur toute la chaîne de commercialisation de ces produits miniers et même au point d'exportation. Je crois que en un mot, à ce jour, on a mis en place tous les mécanismes qui permettent de saisir toutes les étapes par lesquelles passent les produits depuis l'extraction jusqu'à l'exportation. Et ça, ça n'existait pas avant, où ce secteur-là était considéré comme un secteur gangréné par plusieurs sites, on ne savait pas qui produisait, ça prenait quelle destination, et il y avait une existence de services. Je crois que avec ce préalable, on est quand même sûr de commencer à maîtriser les circuits de production, de commercialisation et d'exportation de ces produits. Donc c'est en ces termes-là que le ministre a parlé de préalable qui a été réuni.
Alors, il y a deux auditeurs, Jean de Kinshasa, je crois qu'il est nécessaire de se poser la question de savoir à quoi aura servi la mesure d'interdiction avant de parler de sa levée. Sur le terrain, il est affirmé que les mines auront été sous le contrôle du seul ex-CNDP qui les a exploitées à sa guise. En tout cas, il est difficile de dire qu'elle a contribué à assainir le secteur. Cette mesure que nous avons saluée tous, elle est encore lointaine. L'époque de la démilitarisation totale de l'exploitation des minerais congolais, l'Emslamania.
Oui, effectivement. Donc, ce que nous devons considérer à ces jours, c'est que le souci du gouvernement, c'est de procéder à un encadrement et à une maîtrise de l'ensemble d'opérations qui se passent sur le terrain. Et cela, ce n'est pas un travail qui peut se faire en 4 mois. C'est un travail, c'est tout un processus. Et tant que cette activité ne fonctionne pas, vous ne saurez pas découvrir les autres facettes, les autres contraintes qui doivent être réglées. Je crois que à ces jours, effectivement, il y a ce problème. Il faut déployer la police minière dans les sites miniers. Il faut démilitariser tous les sites miniers. Il y a eu des opérations militaires qui ont été effectuées pour éradiquer les groupes armés. C'est vrai que par-ci, par-là, on peut encore trouver certaines forces de résistance. Mais le plus important, c'est qu'on met en place un mécanisme qu'on doit tester maintenant sur le terrain. Et si on constate qu'il y a encore des faiblesses, des failles, ce qui est toujours évident, parce que je le dis, c'est tout un processus, alors on doit les corriger au fur et à mesure pour qu'on arrive, peut-être après un certain temps, à avoir une maîtrise, un contrôle parfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en levant la mesure, on ne peut pas vous garantir qu'à 100% tout va fonctionner de manière parfaite. Il y aura sûrement des choses qui devront être améliorées, mais pour les améliorer, il faut qu'on rentre dans les opérations, qu'on constate effectivement si, par-ci, par-là, il y a encore des problèmes qui doivent être corrigés. Et je crois que ça, les gens quand même doivent avoir ça présent à l'esprit.
Alors, l'Emslamania, pour revenir sur la mesure elle-même, peut-on dire que cette mesure a réellement été respectée, cette suspension? Parce que beaucoup d'observateurs ont fait état des militaires, des groupes armés qui ont continué à exploiter illicitement les minerais. Quel bilan dresserez-vous de la suspension de cette mesure de suspendre l'exploitation minière?
Oui, je crois que sur ce point-là, on a invité les 3 gouverneurs des provinces concernées. Ces gouverneurs ont rassuré que la mesure a été en majorité respectée, sauf que par-ci, par-là, il y a toujours des cas. Vous avez appris, on a arrêté toute une quantité importante de d'or qui voulait sortir, c'est-à-dire la fraude ne peut pas l'éradiquer. Et surtout, il faut savoir que la mesure a frappé plus ceux-là qui opéraient quand même au vu et au su de l'État. Ce qui fait qu'il y a toujours des gens qui fonctionnent dans l'informel. Est-ce que ces personnes-là ont-elles cessé? Ça, c'est des choses, c'est des efforts qui ont été faits. Mais la mesure pour arrêter l'exploitation, cette mesure a été arrêtée. Vous-même, vous avez été témoin, il y a eu beaucoup d'écrits dans ces provinces concernées où on se disait les gens sont étouffés parce qu'ils n'arrivent pas à exploiter. C'était une source économique. Effectivement, la mesure a été respectée dans vraiment à 80 ou 90%, mais il y a toujours une marge de ceux-là qui vont dans les formels qui ont continué peut-être à opérer et d'autres ont été arrêtés, ce qui justifie effectivement que la mesure qui n'était pas prise aujourd'hui, par exemple la cargaison qui a été arrêtée au niveau de Goma, ne serait pas arrêtée parce que ça continuerait à sortir comme par le passé.
Honorable Gustave Omba, vous êtes député national, élu de Punia au Maniema, consultant dans le secteur minier. Punia, c'est une partie de la République qui était concernée par cette suspension. Comment vous analysez les raisons avancées par le ministre?
Je vais d'abord remercier le ministre et le féliciter pour cette mesure qu'il vient de prendre, mais aussi dire que il est d'une grande importance de comprendre et de savoir que gouverner, c'est revenir. Je suis un élu. Mon intervention va tenir compte d'abord de ce qu'a été les conséquences de cette mesure vis-à-vis de la population, d'une part, et d'autre part, en tant que l'homme politique congolais, qu'est-ce que mon pays a gagné après que cette mesure soit prise. Je dirais que la vraie motivation qui a mené notre gouvernement à prendre cette mesure jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pu résoudre le problème. Il y a un internaute qui a posé cette problématique ici par rapport aux réalités sur le terrain. Nous sommes sur le terrain parce que nous sommes des élus. Mon territoire, c'est un des territoires communément appelés Kigali 2, où le minerai provient des KCC, des Pounia et des Toubord, parce que nous avons 5 pistes d'atterrissage sur l'étendue du territoire, un territoire enclavé. Mais aujourd'hui, cette mesure, je peux vous rassurer, n'a pas du tout changé la situation générale par rapport à ce qui a été la vraie raison de notre gouvernement de prendre la mesure. Je vais m'expliquer. La question relative à la traçabilité est quelque chose à souhaiter, et c'est d'une grande importance. Mais le problème ne se pose pas autour de ça. Le problème se pose autour de la motivation de ceux qui sont appelés à faire le contrôle et le suivi au niveau de la base, au niveau des carrières. Ça s'appelle le service des mines. Si le service des mines était rodé, motivé, je crois qu'aujourd'hui, nous aurions des résultats attendus. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est l'implication des groupes armés. Les groupes armés se retrouvent sur le terrain parce que il y a un problème, le problème de la faiblesse de l'autorité de l'État pour l'assainissement de la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo. Nous avons repéré plusieurs fois des opérations mixtes conjointes, l'armée rwandaise, l'armée congolaise, l'appui de la MONUC. Qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, nous n'arrivons pas à éradiquer cette situation? Mais il y a lieu de savoir que pendant que notre pays était sous cette mesure, pendant que nos provinces du Kivu étaient sous cette mesure, comme l'a dit M. le coordinateur des projets mines, en disant que le bilan était excessivement positif, alors près de 80%, pas de 80%, je me pose la question, si je dois porter une analyse, un regard sur les différents rapports que nous avons eus, de gauche et de droite, au regard des pays voisins qui n'exportent pas, ou qui n'exploitent pas, qui n'ont pas des carrières de mines, qui s'appellent le Rwanda, aujourd'hui le Rwanda est en train de bomber les torses pour dire qu'il se félicite pour certaines croissances considérables dans l'espace des 6 mois. Il a atteint le 34% de croissance à l'exportation de minerais sanitaires. Ce qui veut dire que dans leur calcul, ils ont réalisé un bénéfice à l'exportation de 98 millions de dollars. Certes, je ne veux pas me mêler d'un rapport présenté par un gouvernement responsable rwandais parce qu'ils savent comment mener leur action. Je vais poser la question. Avant ça, qu'est-ce que le Congo a pu réaliser comme valeur à l'exportation des mines sanitaires? Parce que la population vivant dans ce secteur demeure pauvre. Mais le Rwanda, qui n'exploite pas aujourd'hui, a des usines de traitement de ces minerais. Parce que j'étais en vacances parlementaires et j'ai vu qu'il y avait des avions, des cargaisons qui sortaient en complicité avec les autorités politiques, administratives et policières locales qui sortaient avec des minerais. Moi, je me pose la question si les autorités ils sont en train de se rendre compte de ce qu'ils disent parce que je sais qu'ils étaient absents sur le terrain. On a pu venir ici, les représentants de secteurs miniers des différentes provinces. La réalité, c'est qu'à leur retour, ils ont parlé avec nous. Ils sont rentrés dessus. Alors, il faut chercher la motivation et la raison ailleurs. Je ne suis pas encore convaincu que cette mesure a été salutaire et qu'elle pourra apporter une solution demain pour la République du Congo, parce que la vraie raison n'est pas encore éradiquée. Didier Karinga, vous avez suivi l'Enskamania, Gustave Omba, vous êtes analyste économique. Quels sont les côtés positifs et négatifs de la suspension et de la levée en même temps de cette mesure?
Il faut avouer que, rentrons dans l'histoire rapidement, le 20 septembre dernier, 2010 donc, suite à la décision prise par le chef de l'État, le ministre a signé un arrêté dans lequel il donnait les raisons pour lesquelles on avait fait cette mesure de suspension. Je vais rapidement rappeler aux auditeurs les quatre raisons fondamentales qui faisaient que le ministre prenait son arrêté. Il disait, le gouvernement a décidé donc de suspendre l'exploitation minière à l'est du pays. Première raison, c'était pour briser le lien qui existerait entre la prolifération des armes et l'exploitation illégale de minerais. Deuxième raison, c'était pour établir l'autorité de l'État dans les crises. Dans l'arrêté du ministre, troisième raison, c'était mettre fin à l'immigration des agents et personnes étrangères aux services reconnus par les codes miniers. Et quatrième raison, c'était pour lutter contre la fraude et la contrebande minière. Voilà les raisons pour lesquelles l'on avait signé cette suspension. Aujourd'hui, l'on a levé la suspension. On doit donc examiner par rapport à cette levée de suspension si ces raisons-là ont été levées. Et plus tard, le 25 février, le ministre Jesse Vanders a été évoqué par l'honorable Gustave ici et d'ailleurs le coordonnateur adjoint de Promin. Le ministre avait reçu les trois gouverneurs et les différents acteurs dans le secteur. Et le ministre va même ajouter un certain nombre de conditions, pratiquement des actions à mener avant la levée. Je vais citer deux ou trois rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il avait dit qu'on devrait poursuivre la construction des centres de négoce. Il avait dit qu'on devrait établir un schéma de traçabilité et d'évacuation des produits miniers par province. Ça a été évoqué. Et donc, c'est la seule raison aujourd'hui qui est fait sur papier qui a été accomplie. Il a dit aussi qu'on devrait créer trois sociétés minières sous le centre de la Sakima de manière à créer des emplois et surtout aussi à spécialiser les provinces. Il avait dit aussi que les différents gouverneurs devaient établir un document cadre pour la réalisation des projets sociaux à imposer effectivement à proximité des sites miniers. Et en fait, il avait dit qu'on devait assainir les fichiers cadastrales et qu'on devait créer une coordination pour la lutte contre la fraude. Voilà les raisons.
Alors, vous avez évoqué les raisons, d'après votre analyse, alors, le but a-t-il été atteint ou pas?
Aujourd'hui, je ne peux que me réjouir que l'activité économique reprenne. Mais je ne peux pas me réjouir si les raisons évoquées à l'origine où on avait suspendu n'ont pas été accomplies totalement aujourd'hui. Je sais, une seule chose a été faite, et pour ça je peux remercier c'était le gouvernement aussi, c'est que il y a eu quand même un document important qui a été discuté pour la certification des minerais et même des sites. Ce document, je crois qu'il va certainement devenir, on va l'appliquer dans les jours qui viennent. Mais de l'autre côté, la question fondamentale, c'est la démilitarisation de ces minerais. C'est la question de fond. Cette question n'a pas été totalement levée. La deuxième question, c'est la question de l'autorité de l'État. Vous savez qu'il y a encore aujourd'hui, dans les Kivus, des affrontements armés. Donc si nous-mêmes nous prenons des textes, nous signons des documents, nous nous posons en conditionnalité, si nous levons ces conditions-là, c'est que nous, vous voyez, là où je suis inquiet. Alors je me dis, effectivement, on doit se poser deux questions fondamentales. Pour moi, cette suspension devait être un lieu de rupture fondamental pour que notre pays accède effectivement à l'industrialisation à l'est du pays. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation à l'Est est encore artisanale, et ce n'est pas ça qui va faire développer le pays. C'est un point de vue que je peux développer plus tard. Je sais qu'aujourd'hui, on a l'économie de la survie, je sais que beaucoup de Congolais vivent de ça, mais le pays n'a jamais, en tout cas, bénéficié de l'artisanat, et je pensais que c'était une volonté politique associée pour réellement créer les conditions d'une exploitation industrielle. Malheureusement, c'était pour organiser l'artisanat d'une autre manière.
Donc le bilan est tout à fait négatif.
Mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que réussir la traçabilité, réussir la certification, permettre à ce qu'aujourd'hui on puisse identifier au moins le problème, il y a un pas qui a été fait, mais il reste mille à accomplir.
James Kamanya, vous allez réagir, résumer les propos de l'honorable Omba et de Willy Kalengai. En plus, il y a cet auditeur, Bahati Olivier de Bukavu Sud Kivu, qui dit « On s'attendait à la levée de cette mesure bien avant les élections parce que le gouvernement considère cela comme un moyen de faire sa campagne. Rien n'a été gagné de cette suspension sauf la baisse de l'économie dans ces provinces. »
Oui, mais merci beaucoup. J'aimerais d'abord revenir rapidement. Je vais reprendre cette question déjà entendue. Par rapport à ce que M. Willy Kalinda a avancé tout à l'heure, il m'a cité que la traçabilité. Mais je dirais que les centres de négoce ont été construits avec l'appui de la MONUSCO. Il y a déjà 3 centres qui sont très prêts et fortement équipés. Il y a 2 autres qui vont terminer à la fin de ces mois. Et ensuite, dans la province du Maniema, il y a eu des bâtiments qui ont été identifiés dans lesquels on va loger provisoirement les centres de négoce. Ça va être le seul point où ces produits miniers, les produits miniers provenant de l'exploitation artisanale seront commercialisés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est réalisé et ça peut être vérifié sur le terrain.
Et la délocalisation
de l'autorité de l'État. Je vais y arriver. L'autre, il a parlé de 3 qui devraient être créés sur les centres de l'affectement. Je crois que les ministres et les ministres du portefeuille sont en concertation pour pouvoir créer ces sociétés et les autorisations ont déjà été données à ces 2 ministres pour que cela soit rapidement réalisé. Maintenant, je prends les 2 cas pour lesquels il y a des inquiétudes. Il a parlé de la démilitarisation des sites miniers. Je crois que nous tous savons qu'il y a eu des opérations militaires contre la plupart des groupes armés qui étaient là. Mais notre crainte, c'est que on s'est dit qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on déloge les groupes armés pour que nos forces armées puissent aussi se réinstaller dans ces mines. Alors, quelle est la solution qui a été proposée par rapport à ça? Il fallait former la brigade minière, la police minière. Effectivement, il y a la police minière qui est en train d'être formée. C'est pourquoi je vous ai dit, les sites miniers sont multiples. Ce n'est pas en levant la mesure aujourd'hui qu'on va dire qu'on a les contrôles parfaits. Mais on va commencer ce déploiement et on va continuer à accroître la vigilance et à punir ceux-là de militaires qui continueront encore à occuper les sites miniers ou pouvoir se mêler à l'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui est aussi en cours. Quand il parle de l'autorité de l'État, je voudrais bien, c'est pourquoi le ministre vous a dit, on est en train de déployer les services. Au moment où je vous parle, les agents de l'administration des mines évoqués par l'honorable ici à côté, ils ont été formés. Les agents des FESCAM, ils ont été formés. Ce qui fait qu'avec ça, on devra quand même déployer ces agents pour qu'ils soient sur le terrain afin qu'ils pratiquent les contrôles et les suivis à la base de tout ce qui se passe au niveau de la production minière. C'est en ce sens-là qu'on peut arriver à restaurer l'autorité de l'État. Mais je l'ai dit, dans ces domaines, parce qu'on a eu même des réunions avec certains militaires, certains donc officiers de l'état-major général, ils ont dit, dans ces domaines, on ne peut pas dire que tout est déjà accompli. Il faut aller sur le terrain, il faut que les activités reprennent pour qu'on contrôle, qu'on voit s'il y a encore certaines postes d'insécurité où il y a ça, pour qu'on arrive à corriger. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas en levant aujourd'hui qu'on va vous dire que tout est clean. Par rapport à cet auditeur qui l'a dit, effectivement aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, même M. Vikaringa l'a évoqué, pour mettre fin à ces problèmes, doit-on laisser continuer l'exploitation finale du minerai ou doit-on passer directement à l'exploitation industrielle? Je crois que le code minier a consacrer le principe de l'exploitation artisanale des minerais. Mais ce que ça se faisait, ce n'était pas encadré, ce n'était pas assisté. Et les solutions qui sont mises en place sont telles qu'il faut encadrer l'artisanat minier de façon que cet artisanat minier puisse évoluer du stade de l'artisanat minier vers la petite mine et afin d'aboutir à une exploitation industrielle. Je crois que là, c'est vrai, mais aussi, il faut aussi ajouter qu'il y a eu des pleurs. Tous les gouverneurs ont parlé, les gens s'inquiètent, ça a étouffé l'économie pour ces considérations sociales économique et même politique, il fallait à un certain niveau qu'on arrive à lever la mesure, ça il faut quand même le reconnaître.
Et par rapport à cet auditeur qui pense que c'est pour des besoins électoralistes?
Non, il faut aller dans ces provinces du Nord, si vous voulez, de manière comment les gens se plaignent, comment il y a eu récession économique, comment les gens ont dit vraiment on a étouffé notre seul moyen de survie. Même en levant la mesure, je crois que les autorités au sommet ne voulaient pas le faire. Si on l'a fait, c'est parce que on s'est dit bon, c'est nos conditions, mais relançons quand même l'artisanat de manière contrôlée avant de voir comment l'organiser. Ce n'est pas seulement pour des élections. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des considérations socio-économiques, bien entendu, peut toujours avoir une certaine connotation politique. Honorable, la paix sociale dans ce province, c'est quand même important.
Honorable Gustave Omboa, je vous vois dubitatif. L'EMS Camoigne apparemment ne vous a pas convaincu.
Vous savez, nous sommes politiques et nous ne sachons pas quand nous devons défendre une cause. Et que l'objectivité dans nos analyses ne peut plus nous caractériser parce que nous n'avons que le Congo comme nation. Hein? Vous savez, si notre gouvernement était préoccupé de pouvoir rentabiliser les recettes pour les réalisations de ces différents programmes, et il sait très bien aujourd'hui que les minerais sanitaires, la cassité, c'est le coltan, le wolframite, fait partie aujourd'hui des minerais stratégiques. qui fait que d'autres nations sont en train de réaliser des recettes importantes pour l'éclosion de leur économie. Nous devions avoir d'abord un programme. Vous savez, le Congo souffre de l'absence de planification dans ses actions, dans tous les domaines. Donc, je dirais que le gouvernement fonctionne comme s'ils étaient tous des aveugles. Excusez-moi les termes, mais je crois que c'est le terme approprié. Je vais vous dire une chose, mon cher ami. Moi, de ma naissance, j'ai vécu dans cette zone minière, du Kivu. Mais vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, il s'est fait que toutes ces zones minières, qui sont considérées comme étant des zones qui régénèrent des recettes et qui devaient être sous la coupe du contrôle de l'action du gouvernement par rapport à la nécessité de rentabiliser les recettes, sont malheureusement les zones les plus enclavées, où l'unique voie d'accès, c'est la voie aérienne, où l'autorité de l'État est à peine établie. Si réellement le gouvernement était soucieux de développement et de décollage de ce secteur, la première action à mener, c'était d'abord de rendre toutes ces zones accessibles. Je vous donne un cas. Pour la province de Maniema et le nord de Kivu, Walikale, enclavé, Punia, enclavé, Pangi, enclavé, Kabambare, enclavé, et Shabunda, enclavé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces forces négatives puissent trouver là-bas l'aubaine pour qu'ils puissent s'installer? C'est parce que le gouvernement, dans sa vision d'absence de coordination, a mis en place un mécanisme d'oubli de ces zones qui sont considérées comme étant des zones de premier intérêt économique, comme c'est le cas avec les Katanga. Si vraiment notre gouvernement devait être préoccupé du sort de son éclosion, de son développement économique et pour qu'il essaye des répercussions sur le social de sa population, il devait d'abord procéder par rendre ces zones accessibles pour que même toutes ces réformes et ces intentions, ces bonnes intentions qui sont en train d'être présentées puissent se matérialiser. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à ces résultats si déjà ces zones minières qui sont prometteurs de beaucoup de recettes ne sont pas accessibles. Je viens de suivre ici, il parle des zones de négoce pour le Maniema. Mais aucun chef-lieu de ces territoires minières, et minier, je voulais dire, n'est accessible par quoi de chef-lieu de la province. Comment on peut faire de ces lieux un centre de négoce où il n'y a même pas de route pour arriver à Kindu? Sortir à Punia pour arriver à Kindu, il n'y a pas de route. Partir de Pangi pour arriver à... Il n'y a pas de route. Partir de Kabambare à Salamabila pour arriver là-bas, il n'y a pas de route. Non, je pense que le mal est profond, que nous devons essayer de revoir un peu objectivement dans un planning responsable comment on peut arriver à une solution solide pour que le Congo puisse se sentir prestigieux de son action avec ses minéraux et ses ressources pour que ça profite tant à son économie et à sa population.
Émile Kalinga, je vous donne la parole tout à l'heure, le temps de passer directement à la deuxième partie de cette émission. Comment organiser le secteur minier à travers le pays pour que la population puisse en bénéficier? Vous le savez, la mesure suspendant l'exploitation artisanale des minerais est levée. Mais comment organiser ce secteur sur l'ensemble du pays pour que les minerais contribuent au développement des communautés et ne financent plus les groupes armés? Réponse avec vous, Daniel Tambizoni.
Tout un arsenal juridique, selon le ministre des Mines, est mis sur pied, parmi lesquels les manuels de certification des minerais sanitaires et auristères élaborés par les experts. Le ministre compte aussi sur les différents actes d'engagement signés par chacun des intervenants dans le secteur pour assurer une bonne traçabilité des minerais. À travers ces actes, les exploitants artisanaux ont pris l'engagement de travailler exclusivement dans les zones ouvertes à l'exploitation artisanale, se faire identifier auprès des services des mines et vendre leurs produits seulement dans les comptoirs agréés. Les négociants se sont, eux, engagés à accepter le contrôle administratif du CEC et du CFCAM, n'achetés qu'auprès des artisanaux travaillant dans les zones reconnues par l'autorité. La société civile a la charge de vulgariser les manuels de certification des minerais et encourager les creuseurs à payer les taxes, lutter contre la fraude en dénonçant toutes les contrebandes. Le ministre des Mines, lui, a pris l'engagement de faire appliquer strictement la nomenclature des taxes telles qu'harmonisées entre le gouvernement central et les provinciaux. Mais déjà, lors de la signature des documents, le gouverneur du Maniema a émis des réserves. pour Pascal Toutou-Salomou, les documents présentés n'ont pas relayé les décisions prises lors des travaux en atelier, selon lesquels l'octroi des cartes de trésor et de négociants devait relever de la compétence des provinces et non du gouvernement central.
Merci Daniel Tandizoni. Willy Kalinga, je rappelle que vous êtes analyste et directeur général de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans les ressources naturelles. Que faut-il ou comment faut-il organiser le secteur minier pour que la population en tire profit?
Je vais aller tout droit au but, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Moi, je pense que l'exploitation artisanale ne peut pas développer le pays. Puis le secteur minier, donnez-moi 30 secondes rapidement, je vais essayer de vous développer mes idées. Vous savez qu'à l'époque, la Gécamine donnait 1 milliard de dollars au budget de l'État. La Gécamine avait une production du cuivre, la Gécamine a atteint 400 000 tonnes de cuivre, et la Gécamine, il était interdit de faire l'exploitation artisanale sur le site de la Gécamine. C'était la même chose aussi avec la MIBA, avec Okimo et les autres grandes compagnies. En 1982, pour des raisons politiques, le maréchal Mobutu à l'époque va décider de libéraliser l'exploitation des ressources naturelles, pensant ainsi créer une classe moyenne qui devrait accéder ainsi à la richesse directement. Depuis ce jour-là, nous avons commencé non seulement à nous appauvrir, mais à perdre des pans entiers de nos jeunes. À Mbujima, il y a les voies à la catastrophe. Au Katanga, n'en parlons pas. Bon, aujourd'hui, c'est le Kivu qui vit aujourd'hui la catastrophe de l'exploitation artisanale. Notre pays ne peut pas s'en sortir parce que vous avez l'impression que les gens gagnent un peu d'argent. En réalité, ils sont de plus en plus pauvres. Les jeunes ne vont plus à l'école. L'école n'est plus cet espace par lequel les enfants doivent s'épanouir. Les parents n'ont plus pression sur les enfants parce que quand ils ont ramassé une pierre, ils deviennent des adultes directement. Voilà où le pays est aujourd'hui. Je sais que le code minier, comme l'a dit le coordonnateur adjoint, autorise l'exploitation artisanale, on devrait l'encadrer, mais je pense que le secteur minier, dans tous les pays du monde où celui-là a développé le pays, il n'y avait pas l'exploitation artisanale. Je voudrais encore dire une chose. Je pensais que le temps de la suspension pouvait permettre une certaine harmonisation entre les acteurs. Par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des ministres provinciaux chargés du secteur minier. Ces ministres provinciaux sont complètement sans un rôle à jouer en réalité, parce qu'ils ne sont pas reconnus par le code minier.
Kinshasa prend tout.
Je me disais que, par exemple, si on pouvait, on est à l'ère de révisitation de tous les textes, on pouvait révisiter le code minier pour donner aux ministres provinciaux et aux gouverneurs, en réalité, un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que, si vous regardez rapidement dans le texte de Doing Business, on a essayé d'alléger les procédures et de diminuer les taxes, ce qui est une bonne chose. Certains documents devant être produits gratuitement, c'est vrai. Mais vous allez dans des services qui n'ont aucun sou de fonctionnement, vous leur demandez de vous produire des documents gratuitement. Eux-mêmes, ils n'ont jamais eu un papier depuis des mois. Ce sont des contradictions comme ça qui pouvaient être utilisées pour régler le secteur minier. La production des mines est une question de professionnels, une question de gros sous. Un pays doit développer sa capacité de négociation pour attirer vers lui, soit des investisseurs, soit lui-même l'État, s'est décidé d'investir dans le secteur minier. Il ne faut pas jeter des générations entières dans l'illusion de la richesse qui pourrait produire des mines alors que des enfants meurent chaque jour dans ces mines-là et en sortent totalement pauvres.
Prenons cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous, Willy Kalinga.
Oui. Patrick Talon, développeur parti du Nord Kivu. Je suis le chef des sites chargeurs d'exploitation dans le site de BC, là où on fait les intérêts à Walika. La même société comme la Somekine ne produisait même pas 15 tonnes par jour. Mais nous, nous sommes capables de produire plus de 30 tonnes par jour. Mais souvent, le gouvernement nous donne des ambitions parce que les familles, ils ont octroyé des sites qui étaient entre les mains des Crésus. Ils ont donné à un autre site de ces années 66. Notre souci, c'est que le gouvernement puisse nous instituer la zone artisanale pour que nous puissions jouir juridiquement de ces sites.
Oui, les Calinaires. Je ne peux que me réjouir de la force de production. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que est-ce qu'ils en tirent un bénéfice? Regardez, je reviens à la Gécamine. Parce qu'il y avait un investissement sérieux, nous avons eu des villes comme Kambove, Kolwezi, Likasi, Moussonoï, Kapata, une dizaine de villes qui sont nés d'une exploitation. Nous avons eu Kalima, nous avons eu Mbujimaï, ce sont des îles qui sont nées, des îles modernes, qui sont nées parce qu'on avait mis du sérieux dans l'exploitation minière. Aujourd'hui, à Ouagadougou, il n'y a même pas de route pour arriver. Abissier, même quand il a quitté seulement le Pouy, il faut seulement qu'il fasse 5-10 km, on lui prend sa livraison. D'accord, tous ceux qui sont dans les mines, qui ont la volonté de travailler, devraient être orientés vers des filières industrielles. Ils devront se mettre en coopérative pour demander au gouvernement d'investir pour que l'exploitation soit sérieuse, qu'ils aient un salaire, qu'ils travaillent et que la production soit vendue à l'extérieur et qu'ils aient des moyens.
Même Samania, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur des mines communes. Que faut-il pour comment organiser le secteur minier pour que les populations puissent réellement en bénéficier? L'honorable Gustave Omba parlait déjà de la planification et de rendre les zones minières accessibles et Willy Kalungaï d'ajouter qu'il faut mettre fin à l'exploitation artisanale.
Ah oui, je pense que notre pays, on l'a dit, c'est un scandale géologique. Nous sommes dans la couverture centrale avec l'existence de beaucoup de minéraux. À ce jour, avec le code minier qui a été promulgué en 2002 et son application en 2003, je crois qu'on a commencé une réforme qui n'est pas encore arrivée à terme. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faudrait renforcer la capacité de l'État à améliorer la gouvernance et avoir la maîtrise de l'ensemble des opérations qui se passent au niveau du secteur des mines. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on a eu un nouveau code minier, mais on a senti que l'administration minière n'a pas été renforcée. Vous avez des gens qui n'ont pas de moyens de mobilité, qui ne savent pas aller comprendre ce qui se passe à la base, on n'arrive pas à savoir ce qu'on produit. Vous avez celui dont l'Europe tout à l'heure vous a dit, les Rwanda et l'Ouganda et d'autres pays, c'est des pays aujourd'hui qui se déclarent producteurs, exportateurs de cassiterite alors qu'ils n'en ont pas dans leur sous-sol. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'artisanat minier. Je crois que si on arrive aujourd'hui à contrôler, même l'artisanat minier, au sens même du code, il n'est pas dit que l'artisanat minier doit rester toujours dans ce stade-là. La première, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Je vous donne les statistiques. Actuellement, dans notre pays, 70% de la production minière provient du secteur artisanal. Et l'artisanat occupe entre 2 millions et 2 millions et demi de personnes. Si vous mettez les personnes en charge, vous arrivez à autour de 14 à 15 millions. Donc, soit près de 20% de la population qui vivent grâce à cette activité d'exploitation artisanale des minéraux. Mais ce qu'il faut faire, il faudrait que l'artisanat minier puisse évoluer. De même que nous avons le secteur industriel à grande échelle où on a de gros investissements comme vous les avez au Katanga avec Tank et Kungurumi qui a déjà investi autour de 2 milliards, vous avez Roche Mining qui est autour de 500 millions, il faudrait que l'artisanat minier puisse évoluer, quitter le stade de l'artisanat minier, passer par des coopératives minières, petites mines et aller vers le ciel industriel. Si l'artisanat minier continue à fonctionner comme ça se passe aujourd'hui, sans être encadré, sans évoluer, à ce moment-là, on ne peut pas aboutir à un développement véritable. Je crois que tous ces processus-là qui doivent être mis en place par l'État pour qu'on pousse ça vers l'avant.
Honorable Gustave Omba, vous êtes député national, élu de Founia au Maniema, également consultant dans le secteur minier. Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Ismaël Landaïbanda, président du Conseil de l'apostolat de la République du Congo, de Kinshasa. Oui, donc la question que l'on se pose sur l'exploitation des ressources naturelles en RDC et les mines en particulier, c'est celui du droit de propriété. Pourquoi est-ce qu'on continue à penser que les communautés locales, qui sont en fait les propriétaires naturels de ce sol et donc du sous-sol en vérité, sont réduits à n'être que des mendiants de la charité auprès de ceux qui viennent investir, alors que dans d'autres pays, particulièrement dans le monde arabe, on voit que quand les investisseurs viennent pour exploiter le pétrole, les émirs, qui sont exactement ce que sont nos chefs coutumiers, nos chefs de clan, eux, ils deviennent copropriétaires, actionnaires dans les entreprises qu'ils montent, jusqu'à concurrence de 60% pour eux qui détiennent le droit de propriété sur le sol et le sous-sol, et 40% pour ceux qui viennent avec l'intelligence et les ressources financières.
Réaction honorable. Je crois qu'il a fait une très bonne comparaison, mais il doit savoir que le Congo a une législation. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce qui constitue l'État, c'est les textes de la Constitution, c'est sa population et la limitation de son territoire. Et je crois que son intervention est bonne, mais elle n'a pas sa place ici. Il doit peut-être trouver un peu de temps de réduire suffisamment les textes réglementaires de notre pays. Il est vrai qu'aujourd'hui,
que la population locale a droit de pouvoir bénéficier de ces ressources naturelles. Mais il est également important qu'il puisse retenir que la faute incombe à ceux qui ont la charge de la gestion. Vous savez, quand il y a le pas de porte, ils sont payés au début de chaque activité minière. Il faut se poser la question, combien de fonds, quels sont les montants ou quels sont les projets impact visibles que le gouvernement appuie quand une grande société minière arrive sur le terrain. Il faut reconnaître ici que la faute incombe au gouvernement qui se comporte vraiment comme, je vais illustrer ça, le canard. Quand ça tombe sur son assiette, les grosses pointures se servent et le peuple reste subir et n'est pas voir l'impact de la présence de ces entreprises. Ici, nous sommes en train de parler des zones minières à l'est du Congo. Et qui veut vous dire ici, il n'y a aucune société minière qui sait une industrie. Une société à grande industrie qui est allée s'installer là-bas. Parce que, d'une part, nous avons évoqué ici l'absence de l'autorité de l'État, parce qu'un investissement sérieux ne peut pas s'amener dans toutes ces zones, étant donné que l'État congolais ne fournit aucun effort pour baliser en vue de permettre à certains investissements sérieux de venir. Il y a un problème d'ordre sécuritaire et l'absence d'une politique adaptée pour pouvoir attirer, rendre cette zone alléchante et rendre faire bénéficier au peuple congolais de faire retomber de toutes ces exploitations. Voilà la raison, en félicitant les bonnes recommandations que vous venez de donner à ce gouvernement qui devait en principe suivre ça à la lettre pour arriver au bon résultat.
Merci. Willy Kalingay, qu'est-ce que vous répondez par rapport au droit de propriété?
C'est vrai que c'est notre capacité de négociation. Nous devons reconnaître à notre peuple ses propres droits. Nous devons aussi, en même temps, quand un grand investissement arrive au pays, lui imposer ça. Ça s'est déjà fait ici. Je viens de citer le cas de la Gécamine. Je viens de citer, il y a quand même des investissements sociaux importants, des écoles importantes. Aujourd'hui, si vous regardez l'ensemble des cadres, énormément de cadres ont été formés par ces entreprises. Nous avons même connu des premiers ministres, des gouverneurs, des banques centrales qui sont sortis de ces écoles minières. Aujourd'hui, l'honorable Gustave Dupin là-bas, il est un fruit de ces écoles minières là. Ça veut dire en réalité, c'est la force de proposition et de négociation. Un gouvernement doit développer aussi sa capacité de revendication. Est-ce que votre gouvernement revendique suffisamment pour sa population par rapport aux questions des droits de propriété? Quand vous regardez ce qui se passe dans les zones minières, les entreprises minières ne font pratiquement que des broutilles. Vous allez voir, par exemple, je ne cite pas quelles zones minières, vous allez voir quand même que c'est des petites maisonnettes, c'est des petites cases qui sont faites, ce n'est pas vraiment ce qui devait se faire. La mine est une exploitation des ressources naturelles non renouvelables. Quand vous exploitez une mine, ça vous savez que vous privez les générations à venir d'une ressource certaine. Donc, donnez-leur au moins des richesses que vous avez transformées. Voilà ce que je veux dire.
Alors, il va falloir conclure. Il nous reste au moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Conclusion, évidemment.
Je souhaite simplement que le gouvernement continue à appliquer ses propres textes et à aller de l'avant dans le sens des textes qu'il a pris et que nous puissions arriver à la certification et surtout à l'exploitation industrielle qui est seule capable de nous sortir de la pauvreté.
Bref, conclusion, Lens Kamana.
Oui, moi je pense que l'exploitation artisanale des minerais, elle nourrit, elle utilise un nombre important de la masse au niveau de notre pays. Elle doit être encadrée, elle doit évoluer pour tendre vers une exploitation moyenne et considérable de ce pays.
Honorable Gustave Mba.
Et j'ai seulement constaté que cette mesure était très positive pour l'économie rwandaise, les Congolais, la population congolaise et l'économie du Congo est restée croupie dans la misère. Il y a lieu que nous puissions passer à la vitesse supérieure pour que les minéraux de l'Est du Congo profitent au Congo.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais est terminé pour aujourd'hui. Réécoutez cette émission en rediffusion en FM à 4h15 heure de Kinshasa ou retrouvez-la sur radiocapu.net. Portez-vous bien, à demain, Inch'Allah. I'm going to go to the next one.